9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
En 1503, le clan espagnol des Borgia, en tout cas d'origine espagnole, est un des plus puissants d'Europe. Son chef n'est autre que le pape Alexandre VI, il a 72 ans, lui-même est neveu d'un pape, il arbore la tiare depuis déjà une bonne décennie, et dans la péninsule italique, rien d'important ne peut désormais se faire sans tenir compte des réactions de cet homme. Il faut imaginer cet homme très intelligent, avec son physique de plus en plus gras, son nez busqué et ce regard qui en impose à la terre entière. Ce pape-là n'a rien d'un religieux bon, modeste ou tempérant, non, non, non. Mais en même temps, il ne faudrait pas l'imaginer en monstre caricatural tel qu'on l'a si souvent décrit. Disons qu'il est le produit vicié de cette élite de la Renaissance, à la fois très brillante, très cultivée, portée sur les plaisirs avant tout et rompue, disons-le, aux intrigues les plus cyniques. On pourrait même dire parfois aux intrigues les plus violentes. La priorité d'Alexandre VI, d'une part, c'est la défense des intérêts de l'Église, c'est bien la moindre des choses en tant que pape, mais d'autre part, ce sont les intérêts de son propre clan. Sa fille, alors il faut reprendre, hein, les enfants qu'il a eus se sont préparés à un avenir plus que privilégié, puisque sa fille, la belle Lucrèce, Lucrèce Borgia, a été mariée successivement au sein de diverses grandes familles d'Italie, et son fils, le svelte, le sombre César Borgia, après avoir été un temps cardinal, s'est mué, vous le savez, en chef de guerre, sans scrupules. Il est parti à la conquête de toute une partie de l'Italie, il a pris à ses côtés Léonard de Vinci, d'ailleurs. Alors, est-ce que tout cela est si solide que ça en a l'air? Eh bien, en 1503, des fissures commencent à se faire visibles dans le bel édifice de la famille Borgia. Le pape a énormément d'ennemis, il s'en fait chaque année. Bien des membres des clans rivaux, il y a les Orsini, les Colonna, les Della Rovere qui le détestent absolument. Tous ces gens-là murmurent des menaces dès que le nom du pape est prononcé. Et en termes de finances, la diplomatie active du pape et les rêves politiques et guerriers du terrible César sont des puits sans fond. Alors, pour combler le déficit, le pape est bien obligé de trouver des moyens dont certains sont contestables. Et l'un de ces moyens, c'est d'aller soutirer des sommes de plus en plus ronflantes à ses propres cardinaux. C'est d'ailleurs sans doute la crainte qui va traverser l'esprit d'un membre récent du Sacré Collège, le cardinal Adriano di Corneto, quand il reçoit le 3 août 1503 la nouvelle qu'Alexandre souhaite se rendre chez lui pour y passer la soirée. Allons bon, il va devoir recevoir le pape. On peut supposer que la visite ne sera pas gratuite. Comme le raconte l'excellent Jean-Yves Borio dans l'ouvrage qu'il consacre aux Borgia, qui est une passionnante lecture de confinement et d'après-confinement, je cite Jean-Yves Borio, « Corneto était en effet un homme riche, un homme de goût qui venait de se faire construire dans le Borgo Nuovo, à deux pas du Vatican, un très beau palais. Et comme il avait acheté fort cher son poste de cardinal, l'état de sa fortune était parfaitement connu du pontife. » Que peut bien faire le cardinal di Corneto, de toute façon, sinon préparer dans la précipitation une réception à la mesure de son hôte? Notons tout de même que les Borgia ont la courtoisie d'offrir le vin. On apporte du vin dans la journée, c'est un serviteur de César, l'obscur Don Miguel, qui se charge de la chose. Et dans la soirée, donc, voilà que sa sainteté, le pape et toute sa cour paraissent au pied de la façade claire du palais du cardinal di Corneto, jolie façade sobre dans le nouveau goût, si je puis dire. Le souper peut donc commencer dans une ambiance toute en mondanité, on est dans la Rome pontificale, n'est-ce pas? De grandes figures ont fait le déplacement, César Borgia, qui a rejoint la réception en cours de route, est même présent. Ainsi, à la même époque, au même moment, dans une chaleur qui devient étouffante, la malaria est en train de dévorer la population d'une partie de Rome, tous les bas-quartiers sont pris par la malaria, dans la jolie propriété du cardinal di Corneto, que dis-je jolie, dans sa somptueuse propriété, on mange, on boit, on discute de sujets graves peut-être, mais surtout légers. Seulement voilà, tout ne se passe pas exactement comme prévu. les récits des faits varient beaucoup selon les auteurs, mais il semble en tout cas qu'au cours de la réception, ou un petit peu plus tard, bon nombre d'invités du cardinal se soient sentis assez mal, le vieux pape ne faisant pas exception. Le cher Claude Mossé, dans ses Histoires de l'Histoire, nous dit « Au milieu de la nuit, Alexandre est pris de terribles douleurs intestinales. Il a une soif atroce et se tord dans son lit. Le 6 août, la fièvre s'apaise, Alexandre se lève, il a l'air sombre. César, se disant lui aussi malade, n'a pas visité son père. Alexandre ne parvient pas à sourire. Il a d'ailleurs, ailleurs. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est pour parler de la mort. » Fait totalement inhabituel chez lui. Et contrairement à César, qui peu à peu va reprendre le dessus sur cet étrange mal, le pape, lui, chancelle. Il y a quelques légers mieux, mais ce sont des mieux passagers, et du 12 au 14 août, il reste carrément sans connaissance. Pendant ce temps, diverses personnes malades depuis la soirée du cardinal vont mourir. Cette fois, le pape Borgia affronte un adversaire qui a l'air plus puissant que lui. Le 18 août, devant sa faiblesse extrême, on se résout à lui procurer les derniers sacrements. Et il ne va falloir que quelques heures pour qu'il passe de vie à trépas. Voilà une mort bien suspecte pour un personnage aussi détesté. Riccardo Chailly, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan, interprète ce prélude de l'acte 3 de l'opéra I Medici de Léon Cavallo. Alors, quand on annonce à César Borgia le décès de son père, il est très affecté, vous me direz, on le serait à moins, seulement, assez vite, son pragmatisme Borgia reprend le dessus, le pape n'est plus, et bien maintenant, il s'agit de penser au vivant, et en l'occurrence, de penser à lui-même, de nouveau Claude Mossé. Quelques minutes après qu'Alexandre a rendu le dernier soupir, Don Miguel, l'âme damnée de César, est auprès de lui. « L'argent, dit César, va prendre tout l'argent !» L'exécuteur se précipite, il aperçoit le cadavre du pape auquel on a déjà passé une robe neuve. Il bouscule notables et prélats rassemblés autour du corps dont la tête repose sur un coussin de soie entre deux cierges. Miguel cherche dans les appartements le cardinal trésorier. Il le trouve enfin, lui appuie son épée sur la gorge et lui arrache les clés des coffres du cabinet pontifical. Et voilà qui va permettre à César de faire main basse sur une partie de la fortune amassée par son père. Je dis une partie seulement parce que Alexandre VI n'avait pas partagé tous ses secrets avec son fils. Pendant ce temps, des dépêches sont envoyées à travers toute l'Europe pour annoncer la nouvelle de la vacance pontificale, n'est-ce pas ? On va donner partout des messes, etc. L'information est accueillie avec un chagrin qu'on dira inégal en fonction des endroits. Dans les cabinets, la cause retenue pour expliquer la mort du pape est une crise d'apoplexie, ce qu'on pourrait plus ou moins traduire, nous, par une hémorragie cérébrale. Si vous voulez, problème, ça n'est pas très vraisemblable comme explication. Les symptômes qu'Alexandre a endurés dans les derniers jours de sa vie ne sont pas du tout compatibles avec une apoplexie. Alors, la première cause possible, celle à laquelle on pense et que vous pensez, j'en suis certain, c'est la malaria, bien entendu, pour évoquer les autres décès survenus après la soirée du cardinal Di Cornetto. La malaria qui aurait pu toucher non seulement les autres invités, mais le pape lui-même. Mais si cette maladie était effectivement très présente à Rome, en tout cas dans la région de Rome et dans les bas quartiers, là encore ça ne cadre pas avec la façon dont le pape est mort. Si tant de personnes sont sont tombés malades au sortir du même repas du 3 août. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller chercher du côté d'une intoxication alimentaire? Ça n'est pas impossible. Quand on y pense, il aurait suffi pour que cela arrive d'une nourriture préparée dans de mauvaises conditions, oubliée trop longtemps dans la fournaise estivale, par exemple, ou peut-être d'une eau insalubre. Seulement, disons-le, peu après le décès d'Alexandre VI, un autre élément va orienter les doutes sur d'autres pistes, et nettement moins innocentes, celle-là. En effet, comme il se doit, le cadavre du défunt est préparé pour être mené dans la basilique Saint-Pierre, revêtu des ornements et des vêtements pontificaux, bien entendu. Tout est donc en place pour assurer une exposition funéraire pleine de dignité, sauf que la dépouille, sans tarder, se met à présenter un corps, un aspect inattendu. Je cite Jean-Yves Boriot. Le corps gonfla, noircit et se délita à une vitesse phénoménale, une langue énorme sortant de la bouche béante. Au Vatican, ce fut la terreur. Le diable, assurait certains, avait pris la forme d'un singe pour venir chercher l'âme du pape. D'autres croyaient avoir entendu Alexandre implorer le démon, comme le rapporte le marquis de Mantoue à son épouse, le 22 septembre 1503. Tandis qu'il était malade, il commença à parler de telle sorte que ceux qui ne comprenaient pas ce qu'il disait pensaient qu'il délirait, bien qu'il fût tout à fait lucide. Il disait « J'arrive, c'est d'accord, mais attends encore un peu ». Selon ce scénario, l'incorrigible Borgia se serait vendu au démon en 1492 pour obtenir la tiare pontificale, et c'est le diable qui lui aurait ôté la vie au terme de leur contrat. De là viendraient ces marques effroyables de corruption au-delà de la mort. Comme d'autres à l'époque, on aura quand même un peu de mal, nous, aujourd'hui, à nous contenter de cette explication démoniaque. En revanche, une décomposition si rapide pourrait indiquer autre chose, évidemment, un assassinat par poison. La thèse est séduisante. Elle présente, elle aussi, des difficultés, disons-le. D'abord, le fait que tant de personnes aient été malades après la soirée du 3 août, ça pose un problème, parce qu'en général, quand on empoisonne quelqu'un, on le fait d'une façon beaucoup plus ciblée. Et puis, il y a un autre souci qui découle du premier, c'est que parmi les personnes touchées par le mystérieux mal, figurent des suspects susceptibles d'avoir voulu attenter au jour du pape Borgia, dont le cardinal Di Cornetto lui-même. Dans l'hypothèse où il serait coupable, ça aurait été quand même assez risqué que de s'empoisonner soi-même. Bref, quel que soit le bout par lequel on essaie de prendre cette énigme, elle pose problème, à moins qu'un autre scénario ne soit envisagé, un scénario audacieux, incertain, me direz-vous, mais séduisant. La scène du banquet du troisième acte du Lucrèce Borgia de Donizetti, l'orchestre et les solistes de l'opéra de la RCA italienne étaient sous la direction de Lionel Perlea. Alors, comme l'évoque Jean-Yves Boriot à la suite d'une enquête menée par l'historien Joseph Schnitzer dans la première moitié du XXe siècle, une hypothèse étonnante pourrait éclairer l'étrange mort d'Alexandre VI Borgia. Il n'y aurait pas eu une tentative d'empoisonnement, mais plusieurs en même temps. Alors, essayons d'expliquer cette possibilité. D'une part, le cardinal Di Cornetto, qui sentait que le pape en voulait assez bien, aurait fait mettre du poison dans certains plats qui devaient lui être proposés lors de la réception. Seulement, les Borgia auraient eux aussi mis sur pied une initiative similaire et qui, elle, visait le cardinal dans le cadre de la même soirée, d'où l'invitation que le pape s'était faite à lui-même pour aller dîner chez le cardinal Cornetto. Leur mode opératoire serait passé par le vin apporté, vous savez, dans l'après-midi par Don Miguel pour la réception. Don Miguel, l'homme qu'on retrouve à chaque fois qu'il y a des coups tordus dans l'entourage de César Borgia. Dans les deux cas, ces mets toxiques ont pu, pour une raison ou pour une autre, ne pas être servis aux personnes qui avaient été prévues. Bref, il y a eu dérapage et peut-être même double dérapage. Par exemple, des auteurs ont pensé que le cardinal Di Cornetto aurait compris que le vin était dangereux et donc il se serait débrouillé pour le faire boire au Borgia. Une autre hypothèse, peut-être plus simple, on peut imaginer qu'il y ait eu un seul empoisonnement ciblé auquel se serait ajoutée une intoxication alimentaire sévère, qui elle aurait touché beaucoup plus de monde, ce qui explique que beaucoup de gens auraient été malades. Bref, difficile d'aller beaucoup plus loin dans les conjectures. Il faut dire que les contradictions entre les sources d'époque et les lacunes qu'elles présentent par ailleurs ne se prêtent guère aux conclusions définitives. Le même problème survient sur un autre point de débat autour de l'affaire, puisque des auteurs ont vu dans l'attitude de César après la mort de son père l'indice d'un parricide. Après avoir fait donner du poison à son père, il aurait pu faire semblant lui-même d'être malade pour se disculper. Et étant donné le caractère très noir du personnage, on peut tout imaginer. Pourtant, et même si ça n'est pas une garantie totale d'innocence, il faut avoir un élément en tête, c'est que si une personne perd énormément dans la mort d'Alexandre VI, c'est bien son fils César, par définition. Machiavel, qui a beaucoup étudié César Borgia, n'est-ce pas, il en a fait le modèle du prince, écrira « César Borgia acquit une souveraineté par la fortune de son père » et la perdit dès que son père n'exista plus. On a envie de dire, voilà la résolution de l'affaire. En effet, à Rome, la page des Borgia va se tourner. Le mesuré Pie III, le successeur d'Alexandre, mourra dès l'automne 1503, et ensuite, c'est un membre de la famille ennemie des Della Rovere, c'est Jules II qui va s'emparer des clés de Saint-Pierre. Pour César, là, ce sera un adversaire très peu enclin au pardon chrétien, c'est le moins qu'on puisse dire. Le fils Borgia essaiera bien d'intriguer pour s'en sortir, mais il ira d'échec en échec. Ses ennemis finissent même, après quelques péripéties, par le faire enfermer dans un château du sud de Valladolid, en Espagne, donc très loin de l'Italie, des théâtres désormais interdits à ses ambitions insatiables. César, après s'être échappé, va quand même tenter de reprendre pied en combattant au service de la Navarre, mais là encore ça tournera mal. Il meurt finalement sous le fer d'adversaires trop forts pour lui en 1507, c'est-à-dire moins de 4 ans après son père, et il n'avait que 31 ans, César. Ainsi, le mystérieux décès d'Alexandre VI aura brisé le destin de tout un clan, de tout ce clan Borgia qui fera parler de lui jusqu'à la fin des temps. Dans l'hypothèse où le pape aurait bien été assassiné, on peut dire que le meurtrier, quel qu'il soit, a réussi à se venger des Borgia, sans doute au-delà même de ses espérances. Et je l'imagine tout entouré de ses livres, de ses dessins, de ses partitions. Voici notre Christian Morin. Bonjour Christian.
Non, je suis à la Villa Medici ce matin.
Ah, bon, d'accord.
Oui, parce que vous venez de parler des Borgia.
Vous auriez dû prévenir.
Je domine le Vatican, voyez-vous. Non, c'était pas tant, parce que au travers de votre narration, on se promène dans cette Italie, dans Rome, bien entendu. Alors je pensais aux Borghese, aux Farnèse, aux Médici, tous ces gens-là. Les Médici, je ne dis pas de sottises, Franck, vous allez me rétablir la vérité. Les Médici avaient construit, ils venaient de Florence, ils avaient construit la Villa Médici pour dominer un peu, être au-dessus du Vatican. Hein.
Oui, pour être au-dessus de tout le monde, même, disons les choses. C'était un peu le problème des Médici, c'est qu'ils voulaient toujours être au-dessus de tout le monde, ces banquiers florentins.
Oui, oui. Alors, il y a le parc Borghese et la villa Borghese juste à côté.
Bien sûr, merveilleux.
Magnifique. Enfin, ça fait partie des balades que nous referons, je pense.
Oui, en ce moment, c'est très vide, tout ça. On voit des photos et des films, d'ailleurs, de Rome complètement désertée. D'un côté, ça fait froid dans le dos. Et d'un autre côté, pour les amateurs d'architecture et d'art, c'est assez inespéré, finalement.
Il y a des photographes qui se régalent actuellement. Alors, à 14h, vous allez parler de mon idole, de Toulouse-Lautrec. Parce que, depuis les Beaux-Arts, bien sûr, ce dessinateur, peintre, témoin de son temps. Et avant que vous n'en parliez à 14h, j'ai retrouvé dans un livre consacré paru chez Gallimard il y a quelques années, ce sont les lettres qu'il échangeait avec sa mère, il dit 66 rue de Codéran à Bordeaux, c'était en 1900, il lui restait à peu près 7 mois à vivre, il dit « Ma chère bonne maman, je suis à Bordeaux et vous souhaite une bonne année » et il préparait à ce moment-là, je figure à l'exposition de Bordeaux avec 4 tableaux et j'ai du succès, ça marchait très bien pour lui et il termine en disant « J'espère que cela vous fera un peu de plaisir, je vous souhaite une bonne année et de la part d'un revenant comme moi, cela compte double comme qualité de souhait. Je vous embrasse, votre petit-fils respectueux. » Alors, c'est terrible parce que cet homme s'est ruiné avec l'absinthe, bien sûr. Et vous savez qu'à Verdelais, où il est enterré...
Mais en même temps, il a ruiné un édifice dont le moins qu'on puisse dire est qu'il était déjà chancelant. Hein.
Et oui, je dois dire que ces problèmes osseux de jambes n'ont jamais rien agrémenté. Son père ne l'a pas aidé psychologiquement non plus, il faut bien le dire. Et quand sa mère venait à Verdelais, le voir quelquefois quand elle assistait à l'office religieux, on m'a raconté que pendant l'office religieux, il buvait de l'eau. Et dès que la cloche sonnait la fin de l'office religieux, hop, il se remettait à l'absinthe. Voilà, on va vous suivre à 14h avec ces belles narrations. Et puis,
j'espère qu'on pourra bientôt se rendre à Albi, revoir les merveilleuses collections du palais de la Berbie. Hein.
Avec notamment la canne de Toulouse-Lautrec, dans laquelle il y avait un petit tube de verre, et dans le pommeau, un petit verre à pied, pour boire justement de temps en temps quand il allait faire quelques croquis en campagne. À tout à l'heure, Franck, et puis demain matin, nous serons là, fidèles au poste, dès 9h pour vous écouter.